L'Hôpital sur Radio Grand Ciel. Voici à présent cette émission qui nous est proposée
par Elisabeth Couget
et Christine Afota.
Et nous partons à Damas. Quel choix étrange,
n'est-ce pas ?
Mais c'est la capitale de la Syrie et en ce moment, bien sûr, elle connaît, tout le monde le sait, l'horreur de la guerre civile, la tragédie et l'enfer.
Mais c'était autrefois un paradis.
Et oui, au point qu'on dit que le prophète Mahomet aurait refusé d'entrer à Damas. Il se contenta de l'admirer de loin en disant que le croyant ne peut aller au paradis qu'une seule fois. Et un voyageur andalou a écrit au début du XIIIe siècle « Si le paradis est sur terre, certes, c'est à Damas ».
C'est important de le rappeler. Damas a une réputation de splendeur.
Des générations de poètes ont chanté les louanges de Damas. Pour les Bédouins, venus du désert, la ville apparaissait comme un rêve verdoyant et parfumé, traversé des eaux fraîches de la rivière Barada, un véritable Éden.
Tu m'as pas dit que tu étais un poète, Christine, hein, n'est-ce pas ? C'est une des plus anciennes cités du monde, il faut le savoir.
Mais c'est vrai, elle est mentionnée dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ sur les tablettes du site archéologique de Mari, dont on parlera plus tard d'ailleurs. Mm-hmm. Et au 15e siècle avant Jésus-Christ, sur les murs du temple d'Amon à Karnak. Damas entre véritablement dans l'histoire vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, et elle est alors capitale d'un royaume araméen.
Alors on parle toujours araméen dans certains coins de la Syrie, il me semble.
Exactement. J'ai d'ailleurs assisté une fois à une messe en araméen. C'est tout à fait, on ne comprend rien, sauf Amen.
Non, mais on doit sentir quelque chose.
Alors, ce royaume araméen, d'ailleurs, a payé pendant un temps un tribut au roi David, le puissant souverain de l'État hébreu à l'ouest. Damas passe ensuite sous la coupe des Assyriens, puis des Babyloniens, puis des Perses.
Alors, l'arrivée des Romains va changer la physionomie de la ville, n'est-ce pas ?
Comme les Romains, bien sûr, ils édifient une cité nouvelle, entourée d'un mur percé de 7 portes, selon un plan rectiligne. Et ils construisent la longue Via Recta romaine. Via Recta, c'est-à-dire la route droite, qui traverse toujours d'ailleurs la ville d'est en ouest. Et au-dessus du sanctuaire du dieu araméen, qui portait le nom de Hadad, ils élèvent cette fois un vaste et magnifique temple dédié à Jupiter.
Alors qu'ils appellent le Damasénien, très bon et très grand.
Voilà, Damasénien, celui de Damas. Oui, il paraît que c'était d'ailleurs un des plus vastes sanctuaires de l'État romain. Et bien sûr, à Damas, ils font construire théâtres, thermes, etc. C'est une grande cité romaine d'environ 100 000 habitants et qui sert de cadre à la première prédication de saint Paul après sa miraculeuse conversion.
Alors rappelons aussi que Damas fut un refuge pour la secte de Qumran, persécutée par les prêtres de Jérusalem. Quant à la conversion de saint Paul, est-ce que tu peux nous en dire
Oui, bien sûr. Alors voilà ce que nous disent les Actes des Apôtres. Saül faisait route et approchait de Damas. Il entendit une voix. « Saül, je suis celui que tu persécutes. » Tombant à terre, il ne voyait plus rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Un disciple du nom d'Anani lui imposa les mains et aussitôt il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Sur le champ, Saül fut baptisé.
Ah ben voilà la transformation de Saül en Paul. Et à ce moment-là, il a pris donc le nom de Paul. Voilà. Il y a deux endroits à Damas qui rappellent saint Paul, il me semble.
Alors d'une part la chapelle Anani, du nom du disciple qui l'a aidé, et puis alors Bab Kissan, c'est-à-dire la porte de Paul, qui s'élève justement là où saint Paul, aidé des disciples, aurait quitté la ville dans un panier pour fuir les Juifs. Notons que la mémoire de saint Paul, ainsi que ces lieux qui lui sont liés, sont toujours vraiment vénérés à Damas.
Alors plus tard, Damas va devenir la capitale d'un empire arabe.
Damas, en fait, était soumise à la terrible inquisition byzantine et payait aussi des taxes énormes à Byzance. Et en fait, la ville accueillit en véritable libérateur les conquérants musulmans en 634. C'est le grand-père d'un certain Saint Jean Damasène, ça te rappelle quelque chose peut-être ?
Oui.
Qui négocia avec les vainqueurs la reddition de la ville.
Alors Saint Jean Damasène, c'est-à-dire Saint Jean de Damas.
Exactement. Saint Jean Damascène, qui fut un grand théologien chrétien et le plus remarquable écrivain du 8e siècle. Il naît à Damas, vers 675, dans une riche famille arabe et chrétienne, et il devint père et docteur de l'Église. Il écrivit la source de la connaissance qui résume toute la théologie byzantine, et il fut un défenseur des images contre les iconoclastes.
Mmh. Alors à Damas, c'est le début de la dynastie des Omeyyades à ce moment-là.
La célèbre dynastie des Omeyyades. Et à l'emplacement du temple de Jupiter, une église avait été bâtie au IVe siècle, en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Et au début du VIIIe siècle, Walid Ier chasse les chrétiens de leur cathédrale et entreprend d'élever à la place la somptueuse mosquée des Omeyyades. La renommée de Damas s'étend dans l'ensemble du monde musulman.
Alors cette mosquée, elle est toujours là ?
Cette mosquée est toujours là. Par contre, la dynastie des Omeyyades,
prestigieux,
voilà, elle s'achève dans un vrai bain de sang et en 750 par le massacre de tous les prétendants au trône. Tous ? Non,
tous.
Pas tous.
Non, peut-être
Il y en a
pas.
Quand même un rescapé de la famille qui fondit en 756 l'émirat de Cordoue en Espagne.
Et c'est l'avènement d'une nouvelle dynastie qui domine l'Orient. On les appelle les Abbassides.
Oui, mais alors les Abbassides se choisissent comme capitale Bagdad. Pendant 12 siècles, Damas n'allait plus être capitale. Vient le temps des croisades. Au début, lors de la première croisade, ça se passe pas mal, les émirs de Damas entretiennent des relations courtoises avec la noblesse franque. Mais la deuxième croisade va rompre cet équilibre. En 1148, Louis VII, roi de France, et ses barons se lancent à l'assaut de Damas. Les chevaliers sont taillés en pièces et Louis VII, sans gloire, décide de lever le camp.
Alors, du côté des musulmans, le héros au même moment est Saladin, qui est une figure d'exception.
Oui, Saladin, dont le nom, en fait, est Salah al-Din. Saladin, c'est plus facile à dire. En français. Il naît en 1138 et il meurt à Damas en 1193, où il est enterré à l'ombre de la mosquée des Omeyyades. Saladin, qui était le sultan d'Égypte et de Syrie, anéantit l'armée franque à la bataille de Hattin, près du lac de Tibériade, en 1187, et il fit prisonnier Guy de Lusignan, qui était le roi chrétien de Jérusalem. Et le 2 octobre 1187, il prit Jérusalem, la ville sainte, que les chrétiens tenaient depuis 88 ans.
La renommée de Saladin est restée éclatante à travers les siècles.
Oui,
il y a beaucoup
oui,
de jeunes franco-algériens ou franco-marocains s'appellent Saladin.
Absolument. Et oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un... qui sortait de l'ordinaire. Il alliait à la fois courage, donc intelligence, et aussi esprit chevaleresque. Et il forçait même l'admiration de ses ennemis. D'ailleurs, trouvères et troubadours le chantèrent à l'égal des héros de chansons de geste. Et il conquit même en Occident le titre de preux.
Un vrai chevalier, n'est-ce pas ? Alors après Saladin, sous les Ayyoubides, Damas connaît un âge d'or.
Et devient aussi un phare culturel pour l'ensemble du monde musulman. Ceci dit, Damas est tout de même mise à sac à 2 reprises, en 1260 par les Mongols, puis en 1400 par les troupes de Tamerlan. Et plus tard, l'Égypte impose son pouvoir sur la Syrie avec le régime des Mamelouks, suivi à partir de 1516 de la présence ottomane, la Turquie, pendant 4 siècles. On peut dire que Damas...
Soliman le Magnifique, là, je rajoute juste.
Soliman le Magnifique, tout à fait. Oui. D'ailleurs, Soliman. Oui, il y a une mosquée de Soliman. Damas somnole, mais justement, à cette période, se construisent la belle mosquée de Soliman, qu'on appelle la mosquée Soulimaniye.
Oui, parce que les Turcs l'appellent Souleyman.
Voilà, Souleymaniye, ou le merveilleux palais Azem au cœur de la vieille ville de Damas.
Et à la fin de la Première Guerre mondiale, Damas se retrouve sous mandat français.
Le 1er octobre 1918, les troupes de l'émir Faisal, conduites par un certain Laurence d'Arabie, entrent à Damas. Les alliés se partagent la région et la Syrie échoit à la France. En 1945, Damas, après 12 siècles, va retrouver son indépendance et son rôle de capitale.
Et ben voilà un bel aperçu historique de plusieurs millénaires que nous venons de vous présenter en une petite dizaine de minutes. Alors je crois que maintenant, nous méritons une petite pause musicale avant de continuer à vous raconter Damas.
Voilà, nous allons écouter un morceau de la liturgie orthodoxe syrienne.
Alors après 12 siècles, voici, nous sommes à Damas du 20e siècle en 1945. Et Christine, tu vas nous raconter un peu comment vit la ville aujourd'hui,
magnifique. Effectivement, jusqu'au milieu du 20e siècle, Damas est restée une ville de taille somme toute modeste qui a le séduisant visage d'un oasis de montagne. Au centre d'un écrin de verdure, alors je suis désolée parce qu'aujourd'hui, quand on dit ce mot, c'est absolument terrible. Non, mais cet écrin de verdure s'appelle...
Faisons abstraction de cette triste
ça s'appelle la Ghouta,
actualité.
En
fait. Voyageons
dans le temps.
Au centre d'un écrin
de verdure qui s'appelle la Ghouta, et à l'abri de ses murs serpentent des ruelles ombreuses et de belles demeures se cachent. Puis, comme dans bien d'autres villes, à partir de la moitié du XXe siècle, se développe une urbanisation rapide et plutôt anarchique. Des bâtiments en béton surgissent un peu partout, sans grâce. Damas a beaucoup perdu de son charme et n'est plus cette caravane d'étoiles sur un tapis vert que célébraient les poètes.
C'est vraiment joli, hein, c'est très beau. Imaginez ça, c'est vrai que c'est merveilleux. Alors c'est donc à l'intérieur de la vieille ville qu'il faut aller chercher peut-être le passé, en fait tout ce qu'on vous raconte pour essayer de retrouver quelque chose de la beauté de Damas.
Les beautés de Damas, et plus que tout, cernée par les souks, la mosquée des Omeyyades. Les rues couvertes et le flot des passants nous entraînent jusqu'à une grande place en pleine lumière. On passe sous un portique de l'ancien temple de Jupiter, et on est saisi par les dimensions importantes de la grande mosquée.
Alors, son origine remonte donc à près de 3000 ans.
Oui, alors un rapide résumé, temple araméen, puis un des plus vastes sanctuaires romains, puis église chrétienne dédiée à Jean-Baptiste au IVe siècle, et aujourd'hui, mosquée. Ce monument a toujours été le cœur de Damas. La mosquée des Omeyyades est construite entre 700 et 715, et c'est l'une des plus vénérées de l'islam, une des merveilles du monde. Fierté et gloire des musulmans. Ses murs sont tapissés de splendides mosaïques à fond or et 12 000 ouvriers furent employés à la bâtir.
Elle était le point de départ de la grande caravane qui partait chaque année pour prier à la Mecque.
Avec 20 000 à 30 000 pèlerins à peu près, venus de Turquie, d'Alep, de Perse, ils se rassemblaient pendant le mois de Ramadan près de la mosquée des Omeyyades et partaient ensuite pour un voyage périlleux de 35 jours, dont la traversée du désert où ils pouvaient faire face à des hordes de pillards.
Ah oui, c'était dangereux alors. La mosquée des Omeyyades a 3 minarets. Bien sûr, la ville en a plus, mais la mosquée des Omeyyades a 3 minarets de 3 styles différents.
Oui, alors le plus ancien est au nord de la mosquée, 10e et 12e siècle. On l'appelle le minaret de la fiancée. Il a de délicates arabesques et c'est le premier à lancer l'appel de la prière. Le minaret de Jésus se trouve à l'angle sud-est et particulièrement considéré. Et selon la tradition, c'est par là, il faut le savoir, que Jésus descendra sur terre au jugement dernier pour combattre l'Antéchrist. Il a été restauré à l'époque ottomane, d'où sa forme en crayon assez caractéristique.
Oui, c'est ça, des minarets, oui, effectivement. Oui. Et le minaret ouest, dit Kouat Bey, construit par le sultan des Mamelouks, de style égyptien,
oui,
qui est très différent.
Alors, on entre donc dans une cour qui est en fait une véritable place publique, ornée de portiques à colonnes et de piliers. On y voit des mouches arabiens en marbre de style très travaillé, un élégant petit édifice décoré de mosaïques et qui abritait à l'origine le trésor de la mosquée. La coupole des horloges et puis aussi le bassin des ablutions pour se purifier avant la prière.
Alors du côté est, sous le portique, une porte s'ouvre sur une longue salle.
Et au fond, dans un reliquaire, repose selon la tradition chiite, la tête de Hussein, le fils d'Ali, le petit-fils de Mahomet. Hussein qui fut assassiné à Kerbela, qui se trouve maintenant au sud-ouest de Bagdad. Il fut assassiné donc à Kerbela en 680.
Oui, il faut retenir ça parce que quand on entend parler des sunnites et des chiites, c'est exactement l'origine de ce problème.
Oui, et lorsqu'on se trouve dans cette salle, il y a toujours des chiites qui viennent ici et qui font de sortes de déchirantes lamentations devant la relique de leur saint. Ils psalmodient l'histoire de Hussein et de son martyre. Et ils viennent aussi s'incliner à Damas sur la tombe de Fatima, qui était la fille du prophète Mahomet et qui était l'épouse d'Ali,
voilà,
et donc
ça.
La mère de Hussein.
Alors l'immense salle de prière est longue de 136 mètres, n'oublions pas, c'est énorme, c'est un peu plus que la cathédrale.
Oui, plus, qui fait 130 mètres de long.
Oui, c'est ça.
Elle est couverte de tapis dans une lumière tamisée. Elle a été ravagée par un terrible incendie en 1893 et reconstruite à l'identique.
Alors on y voit un monument à coupole qui passe pour abriter la tête de Saint Jean-Baptiste.
Ou la moitié.
Ah
oui, alors là il y a un problème parce que la cathédrale d'Amiens déclare avoir la relique de la tête de Jean-Baptiste, mais aussi la mosquée des Omeyyades. Alors on m'a dit, mais je n'en suis absolument pas certaine, on m'a dit que en fait l'impératrice Irène de Byzance aurait coupé cette tête de Jean-Baptiste, qui faisait partie des reliques de Byzance, en deux, et en donnant une tête à l'Occident,
la moitié.
À Amiens, la moitié, et une autre à la mosquée des Omeyyades. Je n'ai pas trouvé de certitude là-dessus, ou d'informations qui ont repris. Donc, voilà.
Et il faut savoir que Saint Jean-Baptiste est un prophète pour les musulmans.
Bien sûr, Saint Jean-Baptiste est un prophète pour les musulmans, et il est vénéré sous le nom de Yahya.
Yahya. Alors, à l'extérieur, on découvre un linteau sculpté qui date de la transformation du sanctuaire païen en église. Donc, ça remonte bien loin.
Bien sûr, au IVe siècle, avec cette inscription gravée, « Ton règne est un règne de tous les temps et ton empire dure à travers les âges ». Enfin, à l'ombre de la grande mosquée, voici le tombeau de Saladin, qui date de la fin du XIIe siècle, en marbre et en bois sculpté d'arabesques et une belle décoration de carreaux de faïence.
Eh bien voilà, c'est très joli ça. Alors avant de continuer la visite de Damas, proposons une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes comme musique
là ? Oui, en écoutant une jeune chanteuse syrienne qui s'appelle Waed Bouassoun et qui s'accompagne de l'oud.
Ah voilà, cet instrument qui ressemble à une guitare sans lettre, quoi. Le cou est court, le corps est beaucoup plus ovale. On dirait une aubergine, ça ressemble à une sorte d'immense aubergine.
Ah ben, j'ai jamais entendu ça, même si tu veux.
Bah, je viens de l'inventer.
D'accord.
Thank you.
Alors nous nous retrouvons pour cette troisième partie de notre émission capitale consacrée à la ville de Damas que Christine nous raconte merveilleusement, poétiquement, n'est-ce pas ?
Alors oui, perdons-nous maintenant, après la visite de la grande mosquée, vraiment qui est le point principal d'intérêt, perdons-nous maintenant dans un fouillis de ruelles bordées de façades aveugles qui ne laissent en rien deviner le luxe et l'élégance des palais damascènes et le charme de leurs jardins. Ici, un chapiteau corinthien, plus loin, un bain mamelouk, ailleurs, un arc romain qui depuis 2000 ans se dore au soleil, sans oublier les souks, leur animation, leur couleur.
La ville en elle-même, c'est l'histoire qui
c'est
se...
C'est toute l'histoire.
Voilà. Alors au cœur du brouhaha des souks, un havre de calme et de paix, de fraîcheur et de verdure, c'est le palais Hazem.
Le palais Hazem, c'est le plus vaste des 150 palais que comptait Damas. La façade jaune, ocre et blanc est soulignée de pierres noires. C'est sobre et contraste avec les jardins luxuriants, les cours plantées de citronniers et de myrtes, embaumées de jasmin et de chèvrefeuilles, ornées de bassins et de cyprès qui lancent leurs cimes vers le ciel. Et bien sûr, les fameuses roses de Damas, aux pétales de deux teintes. En 1238, un chevalier de la sixième croisade ramena en France cette rose de Damas, cette Rosa Damascena, qui allait devenir la rose de province.
Alors poussons la porte. L'intérieur est richement décoré de mosaïques, de marbre multicolores et de superbes boiseries peintes.
Et ça évoque admirablement le cadre de vie raffiné de l'aristocratie damascène autrefois. La construction du palais Hazem commence en 1749. Au XVIIIe siècle, une abondante décoration colorée envahit les murs, les portes et les plafonds. De magnifiques marqueteries de pierre et de stuc, des plafonds somptueux peints de motifs complexes et délicats qui rappellent les enluminures des manuscrits.
En contraste, le mobilier paraît plutôt simple.
Des tapis, des coussins, de petits coffres incrustés de nacre et d'os, ça c'est un style typiquement damascène. Et parmi les plus belles salles du palais Hazem, la salle de la mariée, la salle de la belle-mère, la salle du pèlerinage.
Ah ben, et dans la salle des armes, on peut voir des épées damasquinées.
C'est-à-dire des épées où l'acier de la lame est incrusté de fils d'or et d'argent.
Et que voit-on encore à Damas ?
Eh bien, la citadelle, qui est une véritable ville dans la ville, avec palais, hammam, mosquées et médersa. L'enceinte est du début du XIIe siècle. Et depuis la citadelle, une très agréable promenade longe une partie de l'enceinte en passant par le souk des dinandiers, ceux qui travaillent le métal. Et cette promenade va jusqu'au vieux quartier chrétien de Bab Touna.
Et puis, il y a les souks.
Et en particulier le souk des orfèvres, de minuscules boutiques ruisselantes d'or. Ici, pas de bijoux d'argent. Seules les femmes bédouines de la campagne en portent. Et puis, le souk des fruits confits, les célèbres produits de la Ghouta, là encore, cette oasis qui entoure Damas. Abricots, surtout des abricots, et qui sont renommés dans tout l'Orient. Des abricots de la Ghouta, on confectionne les délicieux abricots confits fourrés aux pistaches.
Des passages ouvrent sur de petits cours intérieurs d'anciens caravansérails.
Faisons une halte au hammam Nour-ed-Din, le plus ancien bain de la ville, 1154. Puis au Khan Assad Pacha, une merveille architecturale du XVIIIe siècle. Et nous voici dans la rue droite.
Ah, la Via Recta.
La Via Recta romaine, qui traverse Damas sur plus d'un kilomètre. Dans les Actes des Apôtres, il y a cette phrase « Va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un certain Saül de Tarse. »
Alors, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment droite, cette route.
Oui, et pour rire un peu, voici ce que disait l'écrivain et humoriste américain Mark Twain, qui visita Damas en 1867. Et à ce propos, il écrit « La rue qu'on appelle droite est plus droite qu'un tire-bouchon, mais pas aussi droite qu'un arc-en-ciel. Je te laisse méditer là-dessus.
Oui, c'est très joli, je te dis toujours, très poétique tout ça. Alors en tout cas, tout au long de cette rue, qu'elle soit droite ou un peu torturée, trouve de magnifiques témoignages de la splendeur de Damas. Hein.
Des cannes ottomans, de belles demeures anciennes, les boutiques d'artisanat présentent ces coffrets de bois en marqueterie de nacre et d'os à dessins géométriques, typiques de Damas, dont l'origine est très ancienne. 3000 ans avant Jésus-Christ, on en trouve déjà sur les sites de Marie et aussi d'Ebla. Et la faïence est de grande qualité. On peut voir de beaux carreaux de faïence, un peu dans le style disneyque, mais sans Turquie. Le rouge, en fait. Et surtout dans des nuances bleu cobalt et blanc.
Et puis, il y a le musée national de Damas, qui mérite vraiment le détour.
Il est remarquable. Il présente la plus riche collection archéologique de Syrie. Et signalons tout spécialement la synagogue de Doura Europos. C'est un sanctuaire qui a été mis à jour sur les bords de l'Euphrate en 1932 et qui présente un cycle de fresques unique au monde qui illustre la Bible. Et ces fresques ont gardé une étonnante fraîcheur de ton.
Alors, dans la salle d'Ougarit, des témoignages d'une brillante civilisation.
Oui, 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ, des ivoires ciselés, de délicats bijoux en or, et puis le célèbre alphabet d'Ougarit, le plus ancien alphabet découvert à ce jour. À Ougarit, on a retrouvé plus de 17 000 tablettes, qui sont un peu comme des livres, on peut dire, la première bibliothèque du monde, avec des textes administratifs, juridiques, diplomatiques, religieux et même une correspondance royale. Vraiment une documentation exceptionnelle sur le fonctionnement de ce royaume. Et dans la salle de Marie, il y a aussi un site. Donc Marie, c'est un site, en fait, où il y a toujours des fouilles. Enfin, en ce moment, je ne sais pas, mais des fouilles qui sont conduites depuis des années déjà par des archéologues français. Et qui se poursuivent.
Alors, on peut admirer aussi le trésor d'Ur.
Ur.
À l'embouchure de l'Euphrate. N'oubliez pas Ur. Dans les mots croisés, exact. Ville ancienne.
Et
voilà,
c'est quoi
deux Ur. Lettres, Ur, Ur.
Patrie d'Abraham, c'est ça. Ur, c'est la patrie d'Abraham, en deux lettres, oui. Et ce trésor, le trésor de Ur, c'est une collection d'objets précieux qui a été retrouvée dans une jarre. Marie, c'était une des plus importantes cités-états de la Mésopotamie, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et caractéristique de cet art de Marie, entre bien d'autres choses, ces petites statuettes qui représentent des personnages à longue barbe, au crâne rasé, le torse nu, et portant un long jupon bouffant, les mains jointes en signe d'adoration. Ce musée de Damas, qui est vraiment passionnant, nous rappelle que la Syrie a été un berceau de l'humanité.
La paix avec les touristes y reviendra peut-être un jour.
En attendant, en espérant ce jour où Damas aura retrouvé sa douceur orientale, où sur son chemin nous attendra peut-être, comme saint Paul, une rencontre inoubliable et bouleversante. Imaginons, Elisabeth.
Imaginons, voilà, nous sommes assis à l'ombre d'un cédrat à la terrasse d'un café.
Tout près de la porte de Bab al-Salam, la porte de la paix, la bien nommée, qui date du 12e et qui est une des plus belles de la ville. Nous sommes bercés par le chant du narguilé. À côté, un comptoir d'épices en pyramide multicolore, des pistaches et des fruits secs dans leur couffin d'osier. Et nous écoutons un extrait mis en musique de l'épopée de Gilgamesh. C'est l'œuvre la plus célèbre de la Mésopotamie, écrite en 2500 avant Jésus-Christ et chantée par Abed Azrié.
Merci de nous avoir écoutés. Merci Christine de nous avoir fait rêver voilà, dans cette belle ville de Damas. À bientôt pour une prochaine émission.
Merci Elisabeth.
Capitale sur
Radio-Montréal.
Au revoir.